L'idée fait son chemin et elle semble même très avancée. Le 20 mai dernier, le général Thierry Burquart, chef d'état-major des armées françaises, était à Kiev. Une semaine plus tard, soit lundi dernier, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Sirski, a possiblement vendu la mèche en annonçant avoir déjà signé les documents qui permettront aux militaires français de venir en Ukraine. La formation sur le sol ukrainien fait partie des chantiers discutés, se contente de dire le ministère des armées à Paris, mais l'hypothèse d'instructeurs français en Ukraine prend corps, analyse Elie Tenenbaum, directeur de recherche à l'IFRI.
Il ne s'agit pas pour l'instant, dans ce qui circule, de troupes de combat, et il s'agirait ici de prolonger du côté ukrainien de la frontière cette formation, sachant que ça permettrait aux Ukrainiens de gagner du temps, le temps de déplacement, de s'approprier les enjeux immédiats du terrain, etc.
Reste à définir le cadre permettant ce déploiement, car là encore, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde, rappelle Elie Tenenbaum.
On imagine plus difficilement un déploiement sous un format UMAM, donc de l'Union européenne, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a certains pays pour lesquels cette option n'est pas acceptable, dont l'Allemagne. Donc un format ad hoc avec une coalition de pays volontaires, dont clairement la France en fait partie, mais on sait qu'il en existe d'autres, la République tchèque, la Pologne, sans doute plusieurs pays baltes, dont au moins l'Estonie. Donc on pourrait imaginer un cadre strictement ad hoc, avec une nation cadre, coordinatrice de l'effort mis en place.
La France pourrait donc prendre la tête de cette coalition d'instructeurs pour l'Ukraine et pourrait l'annoncer dès la semaine prochaine, lors du D-Day, pensent certains. Il y aurait d'abord une mission d'évaluation, disent des diplomates français, cités par le journal Le Monde, avant d'envoyer plusieurs centaines d'instructeurs, essentiellement pour des missions de maintenance des matériels fournis à l'Ukraine, pointe le spécialiste de l'armement, Léo Peria-Peignier.
L'intérêt d'envoyer des formateurs en Ukraine, il est limité. Déjà, on les mettra sur un pan restreint du territoire parce qu'on ne peut pas les approcher trop près du front. On ne pourra pas leur faire organiser de grandes opérations d'entraînement à ciel ouvert parce qu'il faut quand même éviter que de prendre une munition russe. Donc, c'est quand même assez contraint. Donc oui, il y aura probablement du déminage, de la maintenance, de l'apprentissage du commandement, autant d'éléments qui peuvent se faire en intérieur. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est voir ça comme un premier pas. Est-ce que ça peut dériver sur autre chose qu'on pourra faire après, une fois qu'on aura le pied là-bas ?
Une question reste en suspens, rappelle Elie Tenenbaum. Quelle serait la réaction de Moscou à l'arrivée en Ukraine d'instructeurs occidentaux ?
Tout est possible. La Russie pourrait décider de laisser passer, comme elle l'a laissé passer, le soutien matériel jusqu'à présent, sachant que c'est une démonstration de la solidarité vis-à-vis de l'Ukraine. Mais ça n'aurait pas forcément un impact immédiat sur le terrain et sur le rapport de force entre la Russie et l'Ukraine. Donc la Russie pourrait décider finalement de l'accepter. Elle pourrait aussi décider de marquer le coup avec des actions hostiles, des frappes ou avec des tentatives de déstabilisation. Et là, eh bien évidemment, il faudrait voir quelles sont les réponses qui peuvent être envisagées. Je pense qu'on y travaille d'ores et déjà avec nos alliés et avec nos partenaires ukrainiens.
La présence de soldats occidentaux sur le sol ukrainien pourrait-elle être interprétée comme une co-belligérance ? L'Estonie, par exemple, favorable à l'initiative, assure qu'il n'y a dans cette démarche rien d'escalatoire.